des recherches participatives en Bretagne ou comment science et société s'associent pour explorer les questions sociales, économiques, culturelles et environnementales. La recherche autrement est une collection de reportages qui vous fait découvrir l'innovation sociale sous toutes ses formes. Elle est réalisée par les radios associatives bretonnes de l'Accorlab avec le soutien de la région Bretagne et de l'Université de Rennes 2.
C'est l'appel à projet Recherche et Société de la région Bretagne qui a déclenché REC-EMI, alias Recherche collaborative sur les actions d'éducation aux médias et à l'information des radios associatives de Bretagne. Xavier Milliner, le coordinateur de l'Accorlab, s'en est emparé avec deux autres chercheurs, en particulier François Sorin, qui était déjà familier du monde de la radio.
Alors moi, je suis docteur en sciences de l'éducation et je travaille au Centre de recherche interdisciplinaire Solidarité et Société, qui est un centre de recherche basé dans une école en travail social. Et je suis aussi associé au laboratoire de sciences de l'éducation de l'Université Rennes 2. En tant que personne, j'ai des liens anciens et nombreux avec la radio. J'ai un premier métier d'éducateur spécialisé. J'ai fait beaucoup d'ateliers d'éducation aux médias en tant qu'éduc. En plus, je suis administrateur d'une radio associative, donc j'ai des liens anciens avec la radio.
Ce qui n'était pas tout à fait le cas de Barbara Fontard, enseignante-chercheuse à Rennes 2, sociologue de l'éducation, notamment de l'éducation aux médias.
J'avais une connaissance des radios associatives en tant qu'auditrice ou en tant que maîtresse de conférence à l'Université Rennes 2, puisque SILAB notamment intervient au sein d'une formation dont je suis co-responsable. Mais je n'avais pas de lien particulier avec les radios associatives, si ce n'est dans cette activité pédagogique.
SILAB, la radio étudiante de Rennes, qui fait partie de la coordination des radios locales associatives de Bretagne. Des radios qui ont tout de suite bien accueilli le projet REC-EMI, porté par le coordinateur de l'Accorlab, Xavier Milliner.
Ce projet a été accueilli avec enthousiasme, et quand on l'a écrit, quand on l'a imaginé, en tout cas avec Barbara et François, on avait imaginé en effet un groupe recherche qui pourrait mobiliser une dizaine de radios que j'avais identifié comme étant des radios vraiment particulièrement investies sur le champ de l'éducation aux médias. Mais je redoutais que, compte tenu des contraintes ordinaires dans la vie des radios, ce sont des petites radios avec des petites équipes, qu'on ne parvienne pas à mobiliser l'ensemble des effectifs engagés dans l'éducation aux médias. Et bien, on y est parvenu, donc, ce qui témoigne finalement d'une attente à l'idée de participer à un projet de recherche. Les gens ont trouvé ça exigeant comme démarche et du coup enthousiasmant d'avoir comme ça un temps de travail sur le temps long et le bénéfice aussi bien sûr du regard de chercheurs avec du coup cette possibilité d'avoir une autre lecture et une autre sémantique sur sa pratique.
Un projet écrit en commun, c'est important, c'est même l'essence d'une recherche collaborative comme REC-EMI.
Faire recherche participative, c'est pas simplement juxtaposer des identités différentes, société civile et recherche, c'est véritablement se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire ensemble et avec toutes les parties prenantes, pas simplement la coordination des radios associatives bretonnes. Donc la recherche participative a commencé au moment où lauréat de l'appel à projet Région Bretagne, on a eu les moyens de se réunir avec des acteurs de terrain, des praticiens, c'est-à-dire des gens qui sont concrètement chargés des ateliers radio dans différentes radios associatives en Bretagne. Et les premiers temps, outre les présentations réciproques, ont consisté à se demander qu'est-ce qu'on voulait faire ensemble, exprimer des intérêts qui n'étaient pas forcément les mêmes. Avec Barbara, on poursuit des intérêts de connaissance. On avait des questions, on avait envie d'apprendre et de savoir des choses, de faire état du monde social des radios associatives et de leurs pratiques. Et puis, les radios avaient d'autres intérêts. Donc, on a construit un cadre commun, un cadre de réciprocité, et on a défini des objectifs concrets, une méthode, le tout en concertation.
Une recherche comme REC-EMI, c'est donc d'abord une rencontre entre deux mondes qui se côtoient ou pas. D'un côté, le monde multiforme des radios associatives.
Je ne pourrais pas vous faire un portrait robotique, et c'est toute la richesse justement du groupe et du projet, c'est qu'il y a une variété d'identités professionnelles, de trajectoires socio-professionnelles. Il y a ceux qui se revendiquent journalistes, qui sont journalistes, parce qu'ils ont eu une formation de journaliste, qu'ils ont toujours une carte de presse. Donc je pense par exemple à Morgane sous la rue à Canal B, qui intervient dans des actions d'éducation aux médias avec cette casquette assumée de, de journaliste.
Nous sommes une classe de première générale du lycée Pierre Mendès France à Rennes. Nous participons au concours des lycéens cette année en tant que classe journal. Nous avons aussi la chance de participer à un projet d'émission de radio sur Canal B dans laquelle on va raconter cette aventure. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bah, bonjour, moi je suis Sandrine Colette et je viens de publier Madeleine avant l'aube aux éditions Lattès.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être lu par des lycéens ?
D'autres profils, et je pense notamment à Jean, à JB du Tertre à Plume FM, qui lui, dans le cas particulier de Plume FM, qui est une radio qui s'est construite dans un IME, donc avec une spécificité autour d'actions à destination des publics en situation de handicap, lui, il est venu avec une casquette d'EDUXP, éducateur spécialisé. L'autre profil, je ne pourrais pas vous faire les 10, hein, mais ce sont des animateurs, animatrices qui viennent de l'EDUCPOP, qui ont travaillé avant avec d'autres grands réseaux de l'éducation populaire, et donc avec une dimension socio-éducative vraiment ancrée autour du faire-faire, des désirs, les attentes, les besoins des publics. Je pourrais citer Fanny Gimeno de Timbre FM, mais Pierre-Yves Boussard à Transistor a aussi pour moi cette identité professionnelle, selon moi. Et puis à côté de ça, il y a ceux qui ont démarré leurs travaux à la radio en tant qu'animateurs, c'est-à-dire en charge d'émissions, et qui se sont déportés pas à pas vers une pratique socio-éducative et qui se sont formés sur le terrain sans avoir eu forcément d'expérience ni journalistique, ni dans la sphère d'éducation spécialisée, ni forcément dans d'autres sphères associatives, mais qui ont inventé, construit leur aussi gamme d'interventions en matière d'atelier radio.
Ça veut dire quoi être vieux ? C'est la question à laquelle on va réfléchir toutes et tous ensemble aujourd'hui.
Il y a de l'amour à garder, hein.
Je leur ai dit que j'avais 92 ans.
Ouais.
Alors elles me disent que je fais jeune.
Voilà. Ok.
C'est gentil.
Alors, est-ce que ça veut dire que être vieux, c'est une question d'âge ?
Non.
Je pense par exemple aussi à un autre profil avec des gens qui viennent peut-être aussi de la médiation culturelle, des personnes comme Léa par exemple qui a accompagné le projet, qui ne travaille plus à Syllab désormais, mais qui avait elle un cursus universitaire autour de la médiation culturelle. Donc la pratique d'atelier radio, c'est une forme de médiation artistique et culturelle. Et donc voilà un autre profil par exemple que je pourrais citer là.
Le monde de la radio est-il si loin de celui de la recherche ou bien y a-t-il des passerelles ?
L'animateur, il fait des recherches, il cherche après...
JB du Tertre, Plume FM à Séran.
Si, quand même, le chercheur, son métier, c'est d'une certaine façon de vulgariser son travail, c'est-à-dire de le rendre accessible et compréhensible au plus grand nombre. Et finalement, nous, le métier d'animateur radio, c'est ça, c'est-à-dire traiter d'un sujet, donner la parole pour que le plus grand nombre puisse comprendre de quoi il retourne et de quoi on parle.
Dans la rencontre entre les chercheurs de métier et puis les personnes mises en recherche dans une démarche comme celle-ci, notamment au début, enfin moi je suis très au clair avec le fait qu'à des moments on peut jargonner, voilà. Et puis ça a été dit avec humour, et puis entendu, et puis de la même manière les professionnels, y a un round un peu d'observation, on commence par se présenter, donc on commence par parler plus fort et dire qui on est, enfin, bon, c'est des choses complètement humaines. Ça veut dire que ces recherches participatives, elles doivent aussi prendre le temps de cette rencontre. Et partir du principe que tout ça va évoluer. On a passé beaucoup de temps ensemble, finalement.
Déjà, concernant la recherche, moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, et encore moins collaboratif. Je pense que, comme probablement beaucoup de personnes, j'ai un imaginaire du chercheur et de la chercheuse qui serait un intellectuel qui porte un regard sur. Je n'avais pas forcément... en tête tout ce travail de collectage, d'enquête, d'analyse.
Isèle Vincent de Radio Balise à Lanester nous parle ici de méthode. Participative ou pas, la recherche suppose une méthodologie, d'abord pour observer et collecter les données.
Je ne suis pas certaine que nous ayons particulièrement innové.
Barbara Fontard.
Ce qui a été intéressant, c'est, si on considère que c'est une innovation, c'est d'articuler plusieurs méthodes. Donc, bon, d'abord le cadre d'une recherche participative qui n'est pas tant innovante qu'elle se développe de plus en plus et qu'elle était tout à fait idoine ici. Et après, on a articulé plusieurs outils méthodologiques, à la fois des entretiens collectifs, c'est-à-dire des moments, des journées entières. Et souvent, les entretiens collectifs ne durent que quelques heures, hein, dans les méthodes de recherche en sciences. sciences sociales. Durant ces entretiens collectifs, on a mis en place des séances d'analyse de pratique. C'est François Sorin qui a apporté cela et c'était tout à fait intéressant justement pour partir des expériences, des enjeux et des épreuves de professionnalité que pouvaient rencontrer ces acteurs. On a aussi mené des entretiens individuels parce que prendre la parole dans un groupe et prendre la parole, échanger individuellement, eh bien, on ne dit pas les mêmes choses. Les entretiens individuels ont permis de revenir sur les trajectoires individuelles de chaque acteur. Et puis, on a aussi mené un recensement quantitatif des actions et des pratiques des chargés d'ateliers radio. C'est eux, d'ailleurs, qui ont porté ce travail. Et enfin, on a mené deux ethnographies, puisqu'on était deux chercheurs. Chaque chercheur est allé sur un terrain pour suivre l'activité d'un de ces chargés d'ateliers radio. Donc, en fait, l'innovation, elle existe à travers le fait d'avoir cherché à multiplier les possibilités d'observer, d'analyser, de comprendre la pratique, quoi. De ne pas se contenter d'un seul outil méthodologique, mais d'articuler plusieurs.
Si on peut parler de choc des cultures entre la recherche et la radio, c'est plutôt sur le rapport au temps qu'il s'est joué.
Et en gros, on devait envoyer des fiches récapitulatives de tous les ateliers menés par les radios depuis 2015.
Pierre-Louis Le Seul, Radio U, Brest.
Donc moi, je ne suis clairement pas allé au bout dans les délais, parce que rajouter ça sur ton temps de travail, c'est quand même énorme. Et donc, on devait compiler dans les fiches, je ne me rappelle plus exactement ce qui était demandé, mais en gros, le public, le nombre, où est-ce que ça se passait, quel type d'atelier c'était, est-ce que c'était du one-shot, pas du one-shot, à quoi ça donnait lieu, les méthodes pédagogiques, etc. Et donc, il fallait vraiment qu'on remplisse pour chaque atelier fait. Pareil, le nombre de séances, etc. Et c'est vrai que ça en faisait une palanquée, parce que autant moi j'ai joué le jeu qu'à moitié, j'ai dû en envoyer une quinzaine. C'est vrai que si on reprend les ateliers depuis 2015, ça fait quand même 9 ans. Il y a des radios, je pense que du côté de Plume FM, JB, il en a envoyé, je ne sais même pas combien, quoi.
Bah ça, c'est un impensé dans les dispositifs de soutien en recherche participative, puisque le temps consacré par les praticiens, donc la société civile, est très peu valorisé. Et finalement, c'est du temps qu'ils ont pris dans leurs agendas, que leurs employeurs ont bien voulu les laisser prendre. Et ce qui est loin d'être évident, en fait, hein, ouais. Puisque l'agenda d'un responsable d'atelier radio, ben, c'est aussi un ensemble d'ateliers à conduire. Et quelque part, se libérer 10 journées, ben, c'est 10 journées en moins avec les publics. Et c'est donc aussi une économie, finalement, de son activité qui en pâtit. Et ça, il a fallu aussi avoir un travail de conviction avec les radios elles-mêmes pour qu'elles concèdent que cet espace de recherche était un espace de respiration et de formation pour leurs salariés. Et bon, ça a été vite acquis, hein, mais c'est pas anodin.
J'ai eu la chance d'avoir un CA, des collègues de travail qui mesurent l'importance de cette recherche. Et qui, par exemple, souvent les rencontres avaient lieu le jeudi. Le jeudi, souvent, j'ai un atelier avec des étudiants. Ils m'ont remplacée. Sans problème, et je crois que j'ai raté une séance sur toutes. Mais toi aussi, Fanny, je crois qu'on a été dans les bons élèves, entre guillemets.
Moi, je l'ai présenté à mon CA, par exemple, comme un temps de formation.
Fanny Gimeno, Timbre FM, Augan.
Clairement, c'est le moment où je pouvais me retrouver avec d'autres professionnels, réfléchir sur ce que je fais au quotidien, et que ce temps-là, on ne le prend pas à d'autres moments, et on en a besoin.
Je pense que les choses se sont un peu essoufflées au fil du temps, parce que le temps de la recherche est un temps long, et que nous, ce n'est pas forcément notre temps du quotidien. C'est vrai qu'on fonctionne, nous, beaucoup sur une logique de saison radio, et c'est vrai qu'une saison en chasse une autre. Et là, du coup, c'est un truc qui s'est poursuivi sur plusieurs saisons radio, et du coup, c'est parfois difficile de continuer à s'investir comme on s'est investi dans les premiers temps.
Au-delà des limites, tous et toutes expriment un ressenti positif quant à ces deux années de travail au sein du projet REC-EMI, comme Fanny Gimeno de Timbre FM à Augan.
Moi, les moments que j'ai préférés, clairement, c'est les temps d'échange et d'analyse de pratique. Ça, c'est ce qui m'a nourri vraiment de partager avec des collègues, alors, qui ne sont pas les collègues du quotidien de la radio, qui sont des collègues de métier. Où vraiment, quand il y en a un qui présentait quelque chose ou qui racontait une expérience, ben on avait des images, des situations qui hop, venaient nous permettre de nous comprendre. et des analyses de pratique très accompagnées, en fait, où on allait nous pousser dans les explications, dans la recherche de compréhension de ce qui se passe, les hypothèses que les autres pouvaient... C'est pas juste analyse de pratique pour savoir ce qui s'est passé, c'est vraiment analyse de pratique pour se dire, tiens, sur quoi je peux agir pour que... j'aille vers ce que j'ai envie de faire ou pour que se reproduise pas quelque chose qui me dérange. Voilà, de chercher, quoi, cogiter ensemble et se dire qu'est-ce qu'on fait de ça.
Les analyses de la pratique, c'était un peu l'innovation méthodologique de la recherche. On a réussi à réunir pendant 2 ans, plus de 10 fois, le groupe des praticiens sur des journées complètes. Tout le monde n'était pas toujours là, mais il y avait quand même un niveau d'engagement que moi j'ai trouvé extrêmement fort par rapport aux autres démarches participatives que j'ai pu trouver. Un engagement d'ailleurs qui s'explique pas simplement par le fait que Barbara et moi on est hyper sympas, mais aussi par la présence dans la coordination de la démarche de Xavier. Il y a 3 co-chercheurs. Xavier, coordinateur de la Core Lab, François, Barbara, et ce triumvirat a eu vraiment un effet, je pense, sur la réussite de cette démarche participative, parce que même si les praticiens n'étaient pas présents dans tous ces espaces, ces réunions de coordination où on décide des choses, en fait, on décide ce qu'on va demander aux autres de décider, quoi, on fait les ordres du jour, dans cet espace de coordination, les radios elles-mêmes étaient représentées par le coordinateur des radios associatives. Je pense que c'est vraiment un élément à prendre en compte dans la description des conditions de déroulement de cette recherche participative. Alors, les analyses de pratique, ces journées, elles étaient rythmées par des échanges sur la conduite de la recherche, des éléments d'actualité. On a beaucoup travaillé avec l'actualité. Il se trouvait que pendant qu'on travaillait sur l'éducation aux médias, il y a eu des rapports sénatoriaux, des rapports parlementaires, des tribunes d'acteurs sur la question de l'éducation aux médias. Enfin, il y avait une actualité riche autour de notre objet de recherche. Alors, c'était vraiment super parce qu'on pouvait en débattre avec les premiers concernés, quoi. Et évidemment, ces échanges étaient enregistrés, retranscrits, anonymisés, mais enfin, c'est aussi un matériel de recherche.
Cycle d'auditions en lien avec les états généraux de l'information, je suis heureuse d'accueillir pour une première table ronde M. Grégoire Lemarchand, rédacteur en chef investigation numérique au sein de...
Table ronde du 28 mars 2024 à la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale.
Madame Nathalie Sonnac, présidente du Conseil d'orientation et de perfectionnement du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information.
Et puis à chaque fois, effectivement, en général l'après-midi, on ouvrait des séances d'analyse des pratiques qui consistaient à inviter un des praticiens à présenter une situation problème qu'il avait rencontré sur le terrain, à l'exposer sans être interrompu pendant 10 à 20 minutes. Il l'exposait. Ensuite, le groupe était invité à poser des questions d'explicitation, de précision, celui qui présentait, de manière à ce que le contexte et les tenants et aboutissants de la situation mise sur la table soit bien clair pour tous. Et ensuite, commençait l'échange autour des enjeux pratiques, éthiques, organisationnels, personnels, contenus dans cette situation. Et petit à petit, on s'écartait de cette situation mise en commun pour repérer qu'est-ce qu'il y avait précisément de commun ou comment cette situation résonnait à la fois en termes de thématiques qu'on avait déjà rencontrées, en termes pratiques, comment on aurait fait à la place de l'autre, ou comment soi-même on a réagi lorsqu'on a rencontré cette situation, et puis progresser avec le groupe sur une thématisation des enjeux contenus dans cette situation et d'une séance sur l'autre. On repartait sur cette base-là. Alors voilà, la dernière fois, à travers la situation de tels praticiens, on a pu repérer comment, par exemple, l'actualité chaude pouvait s'inviter dans les ateliers. Qu'est-ce qu'on fait de ça lorsque on a thématisé que les ateliers étaient une caisse de résonance de l'actualité, que c'était pas sans effet sur la manière dont les gens participaient aux ateliers et qu'il fallait se préparer à ça.
J'avais choisi un extrait d'un atelier avec la protection judiciaire de la jeunesse où, en fait, on était parti pour faire vraiment du magazine, chronique, interview, etc. autour du rap. Et en fait, l'extrait que j'ai choisi de faire écouter, c'est le moment où les jeunes ont fait des freestyle rap. Il y a un texte notamment que 2 jeunes avaient écrit, co-écrit, qui parle de leurs pères respectifs et de leurs histoires familiales. Et vraiment, ça met une claque. Où les gamins règlent leur compte avec leurs pères respectifs, et donc on comprend mieux aussi le parcours de violence des jeunes.
On a chacun nos histoires. C'est dur mais faut y croire. Je me suis perdu sur le chemin. Il faut pas que je pense à demain. Les cris de ma mère m'ont rendu sourd. Je supporte ma colère mais ça devient lourd. Papa rentrera tard. Maman se lèvera le matin. Papa fais pas bâtard. Tu vois bien que maman veut que notre bien. En manque d'argent, je fais des erreurs. Papa maintenant tu m'inspires la peur. C'est bon t'es content.
Ben voilà, moi je trouve que c'est un très très bel exemple de ce qu'on peut faire en atelier EMI. Si on prend l'EMI, comme dit Xavier Millinaire de la Corlab, comme une expérience médiatique immersive.
Donc nos analyses de pratique ont été une source d'informations très concrètes, scientifiques, sur ce que sont les ateliers radio et la pratique professionnelle d'animation des ateliers radio. Mais ils ont été aussi un espace de formation entre pairs sur les enjeux pratiques et éthiques de l'animation des ateliers.
C'est l'heure de refermer cette émission. En tout cas, j'ai bien aimé ce moment fort sympathique. Et vous les gars?
Ouais, c'était parfait.
Ouais, ça va, hein. Carré. Ouais.
Merci à Enrico, Sloan, Enzo et Simba. Merci à l'équipe de Radio.
Ensuite, je me souviens moi d'une étape importante qui est l'entretien que les sociologues chercheurs ont eu avec les praticiennes et les praticiens. Et moi, on m'a posé des questions que je ne m'étais pas posées. C'est-à-dire, quel est mon itinéraire? Pourquoi je me retrouve à faire ça? Qu'est-ce qui m'anime particulièrement? Qu'est-ce que je déteste? Alors, c'est des choses qui nous traversent, mais on ne va pas se mentir. Aussi, au quotidien, comme beaucoup de travailleurs et de travailleuses en France, bah, en fait, on met de côté ces questions-là parce qu'il faut qu'on travaille et qu'on continue de pédaler, parfois avec la tête dans le guidon. Se réquestionner aussi sur soi, qui on est dans cette activité-là, bah, ça a un impact. L'atelier d'après, il n'est pas tout à fait le même que celui d'avant cet entretien.
Je les écoute beaucoup. Moi, c'est vraiment ça moi, qui m'a frappé. Il y a beaucoup d'écoute et surtout cette volonté de ne pas se mettre dans une position supérieure. Parce qu'ils le pourraient, hein. Ils arrivent avec un bagage, notamment intellectuel, qui n'est sans doute pas le nôtre. Alors, intellectuel, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas avec un bagage qui n'est pas le nôtre. Et à aucun moment, ils se sont mis dans une position de verticalité, c'est-à-dire nous sommes les sachants et vous êtes les petites mains. Moi, c'est vraiment ça qui m'a agréablement surpris, on va dire, pendant ce travail de recherche.
Je n'avais jamais mené de recherche participative avant. Je pense que j'avais peut-être la crainte d'être un peu surplombante et d'imposer des savoirs et des connaissances. C'était peut-être plus une crainte qu'une réalité, hein. Il y avait vraiment ça qui était présent chez moi. D'imposer des savoirs, d'imposer des cadres qui ne soient pas appropriés ou... Voilà. Bon, effectivement, il semble que ça n'a pas été véritablement le cas et que les propositions qui ont pu être les miennes, et notamment ce cadrage et ce regard à partir de l'éducation aux médias, a pu être pertinent.
J'ai eu l'impression des fois que on arrivait à mettre des mots sur des choses que je fais et que j'arrive pas à expliquer. Et quand je l'entendais dire par François, Barbara, même Xavier, je me disais, mais oui, voilà, c'est ça que je fais. Et toute seule, je n'arrivais pas forcément à le mettre en explication.
Et c'était important que tu...
Et l'entendre, oui. C'est vraiment... C'est confortable, c'est rassurant, c'est ça donne du poids et de la valeur à nos actions du quotidien qu'on fait. Moi, j'en suis convaincue, mais encore plus comme si c'était une
un haut-parleur un peu, ouais, un peu comme ça.
Une de mes plus grandes satisfactions, c'est en tant que chercheuse. C'est aussi de rendre compte d'une éducation aux médias qui est très invisibilisée Et d'avoir pris ce temps long de 2 années autour d'une recherche va permettre justement de rendre compte de toute la pluralité de cette éducation aux médias et puis de son existence. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ce qu'on a pu montrer, notamment la pluralité des éducations aux médias et des manières de faire, et puis les objectifs aussi pédagogiques de cette éducation aux médias menée par les radios associatives, elle permet de nourrir la connaissance en matière d'éducation aux médias. Et je trouve que ouais, ça a été un magnifique terrain pour ça.
Les résultats du projet REC-EMI, il en sera question dans le 3e volet de cette série radiophonique. On verra en quoi l'éducation aux médias menée par les radios associatives est spécifique, quelle est sa portée, quel est son avenir dans la question des rapports entre citoyenneté et médias.
Ce reportage a été réalisé par la Core Lab avec le soutien de la Région Bretagne et de l'Université de Rennes 2. Pour plus d'informations, rendez-vous sur corelab.org.